Voilà, bonjour à tous. Ce matin, nous poursuivons notre thématique que nous avons débutée il y a 15 jours sur les 5 solas, les 5 piliers de la réforme protestante, les 5 piliers qui font ce qui est la teneur de notre foi chrétienne à chacun et chacune. 5 piliers de notre foi chrétienne. Ces piliers ont pris racine il y a 500 ans. Et à l'occasion de ce 500e anniversaire, nous souhaitons tous ensemble réaffirmer ces valeurs sur lesquelles nous sommes fondés. On l'avait dit en 1517, un moine allemand, professeur de théologie et d'écriture sainte, Martin Luther a redécouvert, au travers de l'étude de la Bible, que l'homme ne pouvait être sauvé en fonction de ses bonnes œuvres, mais uniquement à travers la foi en Jésus-Christ. Alors pour tous ceux qui ont manqué ce premier message, il est disponible gratuitement sur Internet, donc vous allez sur le site de l'EPI, vous pouvez entendre ce message. Dans ce message, on avait vu que le premier pilier qui était sola scriptura, c'est-à-dire que les Écritures seules sont l'autorité suprême en matière de foi et de vie du chrétien. C'est ces Écritures seules qui nous révèlent que seul Jésus peut nous sauver. Et c'est le message de ce matin, c'est pour ça qu'on a déroulé la deuxième nappe, Solus Christus, le Christ seul. C'est au travers de l'épître de Paul aux Colossiens ce matin que nous allons regarder à ce deuxième fondement. On commence la lecture, Colossiens 1, versets 13 à 17. Le premier point ce matin, Jésus seul est la source de notre salut. Colossiens 1, 13 à 17. On nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le verset 20, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Amen. Seigneur, on te prie pour ta parole ce matin. Seigneur, qu'elle puisse faire ce travail encore dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, avec humilité ce matin. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais toi, tu as tout donné pour chacun d'entre nous. Merci pour la vie que nous avons en toi. Seigneur, que ta parole puisse encore trouver des cœurs favorables, ouverts, Seigneur, à toi ce matin. Viens faire ton œuvre, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Amen. Amen. Ces quelques versets que nous venons de lire dépeignent totalement et tout de suite le tableau, à savoir que c'est Dieu qui nous délivre de notre péché. La Bible affirme que chacun d'entre nous sommes pécheurs et désobéissants à Dieu. Nous voyons cela dès le plus jeune âge. Il y a une attraction au péché. Qu'est-ce qui se passe quand on dit à un petit enfant de 3-4 ans de ne pas s'approcher de la cuisinière? Il va vers la cuisinière. Il y a une attraction au péché. On dit « touche pas » et vous savez comment ça se passe, hein? Il nous regarde. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai vu mes petits-neveux. Il nous regarde comme ça, il s'approche de plus en plus, il regarde notre réaction. Et puis on commence à aller un petit peu jouer. On agit exactement de la même façon. Il y a une attraction au péché. Nous sommes attirés par le péché. Paul dira dans sa lettre aux Romains que nous sommes tous pécheurs. Ailleurs, il dira que nous sommes tous enclins à faire le mal. Le problème ce matin, ce n'est pas de savoir si nous sommes ou pas pécheurs, mais c'est quelle est la solution pour nos vies. Paul annonce que Dieu est l'auteur et la source de notre salut. C'est lui qui nous délivre du monde des ténèbres, ce monde qui devait être notre part à cause de nos erreurs, et c'est lui qui fait de nous des enfants, des héritiers du roi des rois. Comment Dieu fait-il cela ? Il le fait à travers son Fils Jésus-Christ. Le texte nous dit qu'en Jésus, nous sommes rachetés et pardonnés. Nous sommes déclarés justes par l'œuvre de Jésus-Christ. Le terme qui nous parle de rachat, c'est le terme grec apoloutrosis, qui signifie une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. et ce, dans le contexte de la libération d'un esclave. Jésus libère les pécheurs qui sont esclaves du péché. Jésus libère les pécheurs de l'esclavage du péché. Jésus a payé le prix de la rançon pour chacun d'entre nous afin que nous soyons des bénéficiaires de son royaume. Son sang innocent a été versé sur la croix afin de satisfaire à la justice de Dieu, Dieu qui est saint et qui ne peut pas tolérer le péché. Jésus satisfait pour notre salut. Jésus est ce lien. Le mot pardonner que nous voyons ici nous parle d'une remise de dette, l'oubli de nos péchés comme s'ils n'avaient jamais été commis. Il n'y a pas d'autre alternative pour être en paix avec Dieu que de recevoir le pardon qui vient de Dieu lui-même s'offrant pour le monde. On ne peut pas être pardonné d'une autre manière que par le sacrifice de Jésus, Dieu qui s'offre pour le monde. C'est ce que nous voyons dans l'expression qui dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le mot grec, c'est le mot icon, qui nous parle que Jésus est le portrait de Dieu. C'est la notion que nous voyons. Jésus est le portrait de Dieu. Jésus est la représentation, il est la manifestation visible de Dieu. L'expression premier-né que nous voyons dans le verset que nous avons lu ne signifie pas qu'il est le premier être créé, puisque le texte nous dit qu'il est celui qui a créé toute chose, donc celui qui a créé toute chose ne peut pas être créé, puisque toute chose a été créée par lui. Mais ça signifie qu'il est celui qui est au plus haut rang. Je ne sais pas si j'ai plus de son ou si c'est juste moi, mais c'est juste moi ? Ok, c'est pas grave. Donc Jésus est celui qui est au plus haut rang. Il est celui qui est le plus élevé. C'est cette notion que nous voyons quand on parle de premier-né de la création. On nous parle de la prééminence. Jésus est au-dessus de tout. C'est ce que nous voyons. Et voilà ce que Luther et les autres réformateurs ont redécouvert en sondant et en étudiant la parole de Dieu. Que Dieu aime sa création, on l'a entendu ce matin dans les dons spirituels, et qu'il a envoyé Jésus pour que nous puissions être réconciliés et en paix avec lui. L'Église romaine, à l'époque des réformateurs, abusait de la crédulité du peuple en leur vendant un soi-disant salut. Pour éviter un purgatoire, on a déjà vu la dernière fois ce que c'était. Pascal Desnaux nous explique, on en avait parlé l'autre jour, c'est un pasteur baptiste réformé du Canada, et il a fait une citation pour expliquer un peu ce contexte. Il dit « Vous avez tous déjà entendu l'adage « hors de l'Église, point de salut ». Cette expression résume l'idée selon laquelle les sacrements confèrent la grâce de Dieu pour l'obtention du salut. » Comme c'est l'Église qui dispense les sacrements, hors de l'Église, point de salut. Aux sacrements s'ajoutent les bonnes œuvres qui sont méritoires et c'est ainsi que le salut s'obtient. Voilà comment on dépeint la théologie de l'Église catholique romaine. Donc ça, c'est la conception catholique. En fait, Jésus sauve par le baptême qui purifie du péché originel et par la prise de l'Eucharistie qui est soi-disant renouvelle à chaque fois qu'on la prend le sacrifice de Jésus. Pour eux, les sacrements produisent et réalisent la grâce dans la vie des gens. Pour nous, en tant que protestants, en tant qu'évangéliques, nous prenons les sacrements, on ne les appelle pas sacrements, mais souvent on les appelle ordonnances, et ce sont des moyens de confesser et déclarer notre foi et notre confiance dans ce qui a déjà été accompli par Jésus. Et ça aussi, ça symbolise notre engagement à vouloir le suivre jusqu'au bout. Amen. Est-ce que quand on prend la Sainte Cène les dimanches après dimanche, nous réalisons que nous déclarons ce que Jésus a fait pour nous, mais que nous disons aussi, Seigneur, jour après jour, je prends ce symbole comme pour renouveler l'alliance que j'ai fait avec toi, je veux jusqu'au bout te suivre. C'est ce que Luc Dumont sentait. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Est-ce que c'est ce qui fait écho sur nos cœurs, ce désir de jusqu'au bout, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Mais vous savez, cette notion de bonnes actions, elle n'est pas que dans l'Église catholique. C'est aussi un peu la mentalité de notre société. On nous parle aussi aujourd'hui beaucoup de bonnes œuvres. On pense qu'il y a une balance, on pense qu'il y a des côtés négatifs de nos vies, mais ces derniers seraient contrebalancés par nos côtés positifs. Les gens autour de nous, je sais pas pour vous, mais moi, les gens autour de moi, ils disent, bah, je suis une bonne personne. La plupart des gens s'estiment, bah, je suis quand même une bonne personne. Oui, je fais des erreurs, mais je fais aussi des bonnes choses et ça compense. Beaucoup de gens mettent leurs qualités un petit peu pour contrebalancer leurs défauts. On va regarder une petite vidéo ce matin, de 3 minutes, qui nous parle un petit peu de cette conception erronée que nous pouvons avoir. On est souvent un petit peu comme ça. Comme ces gens qui disent, mais c'est injuste. Calvin dira à ce propos, Jésus-Christ, en mourant, nous atteste que par son sacrifice unique, tout ce qui concerne notre salut est achevé et totalement accompli. Nous est-il donc permis d'en ajouter tous les jours d'innombrables autres comme si celui de Jésus-Christ était imparfait, bien qu'il nous en ait de façon si claire déclaré et certifié la perfection. Solus Christus signifie que Jésus a tout accompli, de sorte qu'aucun mérite de notre part, aucune œuvre que nous pourrions ajouter ne puisse changer l'œuvre de salut achevée par Jésus. Nous ne pouvons rien ajouter ou faire pour que Dieu nous aime plus. La seule condition est de placer sa foi dans celui qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Vous savez, notre identité n'est pas déterminée ou fondée sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous pouvons accomplir, mais notre identité, elle est fondée sur ce que je suis en Jésus-Christ, sur ce que je suis dans la personne de Jésus. Et on arrive à notre deuxième point ce matin, Jésus est la source de notre transformation. On poursuit la lecture, Colossiens 1, versets 21 à 22. Qui nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Vous savez, si nous, en tant que chrétiens, on n'a pas trop de problèmes en général à comprendre que nous sommes sauvés gratuitement par l'œuvre de Jésus, que nous n'avons rien à faire, souvent, on a un peu plus de soucis à comprendre que notre sanctification est aussi l'œuvre de Jésus en nous. Et c'est ce que je veux souligner ce matin. On vient de le lire, c'est « Par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints. » C'est lui qui nous rend juste, mais c'est aussi lui qui nous rend saint. Le terme grec, c'est le terme agios. Ce mot nous parle d'être consacré, d'être mis à part pour Dieu. Le mot que nous utilisons pour parler de cela, souvent, c'est le mot sanctification. C'est le processus par lequel nous devenons de plus en plus saints en conduite et en pensée. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est de croire que c'est nous qui générons notre sanctification. Ce n'est pas nous qui générons notre sanctification, mais c'est Dieu. La sanctification est un changement de pensée opéré par le Saint-Esprit qui nous convainc de la vérité et nous conscientise face au péché. C'est un changement intérieur qui se voit à l'extérieur, exactement comme dans la pub bio de Danone à l'époque. On prenait le petit yaourt et puis ça changeait l'intérieur et ça se voyait à l'extérieur. Le Saint-Esprit opère un changement à l'intérieur de nos vies qui se voit et qui se manifeste à l'extérieur. Jésus et son amour viennent attendrir nos cœurs et nous transforment de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, d'autres vont nous dire, mais ah, on est tout le temps en train de parler de la grâce ici. Mais vous savez, trop penser à la grâce de Jésus ne nous empêche pas d'être obéissants, au contraire. C'est d'y penser peu, qui fait que nous commençons à focusser, à regarder sur nous-mêmes et que nous retombons dans nos vieux travers. Trop de grâce n'empêche pas l'obéissance. Trop de grâce n'annule pas l'obéissance. Mais peu de grâce permet qu'on commence à regarder à nous-mêmes et on commence à agir par nous-mêmes et on retombe dans nos vieux travers parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Tullian Chivijan, qui était le petit-fils de Billy Graham, a dit « Nous voyons des progrès dans notre obéissance seulement lorsque nos cœurs commencent à comprendre que l'amour de Dieu envers nous ne dépend pas de notre progrès dans l'obéissance. » L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de notre progrès dans l'obéissance. Dans le processus de sanctification, oui, nous devons être actifs et obéissants. mais c'est le Seigneur qui génère la puissance et la grâce qui opère cette transformation en nous. En fait, c'est laissons Dieu agir en nous. Souvent, on confond tous le mot saint avec le mot parfait. Mais le mot saint, on l'a vu, c'est être mis à part, consacré. Dieu nous a mis à part pour lui, il nous a consacrés pour lui. Mais nous, souvent, nous cherchons à nous améliorer par nous-mêmes. Laissez-moi vous dire ce matin que vous n'arriverez jamais, que je n'arriverai jamais à me changer moi-même. Nous avons besoin de laisser Dieu agir en nous. Tulane Chivijan dit toujours, lorsqu'il est question de la vie chrétienne, beaucoup d'entre nous pensent que l'Évangile ne nous offre qu'une porte d'entrée. Nous pensons que ce sont nos efforts qui nous maintiennent en règle avec Dieu après la conversion. Nous comprenons que l'Évangile est un point de départ, mais nous ne comprenons pas facilement qu'il est aussi la source de toute croissance spirituelle pour le chrétien. Vous savez, lorsque nous détournons les regards de Jésus pour les fixer sur ce que nous sommes et sur ce que nous devons accomplir, il va se produire deux choses. De l'orgueil lorsque vous allez réussir, en disant « finalement, je suis le meilleur ». Mais il va aussi se produire la célébration, puisque je suis le meilleur, je me célèbre, finalement, je suis un bon chrétien, je suis un champion. Mais par contre, quand vous allez échouer, il va se produire du désespoir, quand vous allez traverser des échecs. Et là, vous allez dire « je suis fini, je suis cuit ». Dans un cas comme dans l'autre, cela produit de l'esclavage. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que l'Évangile nous dit que Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Regarder à soi-même va produire de l'esclavage de notre orgueil ou de l'esclavage de notre désespoir. Nous fixons sur nous-mêmes nos yeux pour chercher à atteindre le ciel, alors que c'est le ciel qui s'est abaissé envers nous pour venir nous transformer. La pire chose que nous puissions faire, frères et sœurs, c'est de devenir fiers de notre obéissance. La Bible nous parle de ce religieux qui remerciait le ciel parce qu'il se croyait mieux que tout le monde. Et il vantait ses mérites dans la prière. Luc 18, 11 à 14, le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. C'est comme si moi je disais, je te remercie Seigneur que je ne suis pas comme les autres frères et sœurs de l'épi, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Et puis il commence à étaler tout ce qu'il fait. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, et c'est Jésus qui parle, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Laissez-moi vous dire que nous sommes tous des idolâtres de nous-mêmes. Nous sommes tous, frères et sœurs, des idolâtres de nous-mêmes. Et c'est dépeint par notre légalisme. Nous disons que nous faisons des choses pour Dieu. Mais que se passe-t-il lorsqu'une épreuve s'abat sur nos vies ? Et je veux vraiment vous parler avec respect ce matin. Je sais que certains d'entre nous traversons des moments difficiles, des saisons de maladie, des saisons de souffrance. Mais est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose dans nos têtes lorsque nous sommes dans l'épreuve en disant « Pourquoi cela m'arrive ?» Et qu'on commence à sortir des arguments. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'aime Dieu. Je le sers de tout mon cœur. J'essaye de faire mon maximum. Et pourtant, l'épreuve s'abat sur moi. » C'est une forme de légalisme, frères et sœurs. Si Dieu n'agit pas selon nos attentes, alors que nous estimons avoir fait des choses pour lui, alors nous commençons à être en colère après lui. Ceci est une manifestation de notre légalisme. Nous croyons à tort que parce que j'en fais beaucoup pour lui, alors il doit en faire pour moi. Nous croyons à tort parce que je donne beaucoup de choses à Dieu, alors lui, il me doit un retour. Laissez-moi vous dire que Dieu ne nous doit rien du tout, mais que nous lui devons tout. Dieu ne te doit rien ce matin, mais toi, tu lui dois tout. Il a donné sa vie pour que tu puisses être racheté, pour que tu puisses être son enfant. Vous savez, notre autosuffisance légaliste et moraliste nous fait croire que Dieu nous doit quelque chose. Mais tout ce que Dieu nous accorde n'est que le résultat de sa grâce et de sa miséricorde. La liberté que Jésus nous garantit n'est pas une libération de la douleur et de la souffrance présente. C'est plutôt une libération de l'amertume, de la colère, de la crainte, du ressentiment, de la pitié de soi, de l'offense et du désespoir, même au sein de la souffrance et de la douleur présente. C'est aussi la libération de ce fardeau imposé par l'idée que je mérite mieux et qu'on me le doit. Voilà la libération que Dieu opère et que Dieu veut opérer. La libération du fardeau qui est imposé par l'idée que j'ai dans ma tête que je mérite mieux que ce qu'on me donne et qu'on me doit quelque chose. Bien souvent, frères et sœurs, nous réagissons comme le frère du fils prodigue. Jésus a raconté l'histoire d'un garçon qui a quitté la maison de son père en réclamant la part de son héritage alors que son papa était toujours vivant. Vous connaissez l'histoire, il a fini par tout dépenser, par dilapider l'argent dans la débauche et il s'est retrouvé sans rien. Alors, il prend conscience de ce qui s'est passé, puis il se rend compte qu'il était mieux dans la maison de son père. Il fait demi-tour, il retourne à la maison de son père. Il demande pardon à son père, il se repent. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et qu'est-ce qui se passe? Le père fait une fête en l'honneur de son fils qui était perdu. Le texte nous dit qu'il le revêt de la plus belle des robes. La robe était réservée aux invités d'honneur. Il lui remet un anneau, symbole de l'autorité qu'il retrouvait. Il lui remet des souliers, c'est des choses que les esclaves n'avaient pas. Il lui remet un manteau, un anneau et des souliers pour honorer. Il lui rend l'autorité qu'il avait. Seulement, ce qui se passe dans notre histoire, c'est que le frère aîné de ce jeune homme, lui ne s'est pas réjoui de la situation, mais il s'est mis en colère contre son père. Et regardez ce qu'il va dire à son père dans Luc 15, 29. « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, » il ne dit pas « quand mon frère est arrivé », il dit « quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Et le père va faire cette réponse, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Nous vivons souvent comme ce frère, comme un esclave alors que nous sommes des fils et des filles. Nous vivons comme dans des esclaves, de la comparaison, de la jalousie. Pourquoi lui il a ça? Pourquoi moi je l'ai pas? Pourquoi Dieu tu fais ça à lui? Pourquoi tu fais pas ça à moi? On vit exactement comme des esclaves, alors que tout est à notre disposition parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous par amour. La grâce de Dieu est là ce matin. Par son attitude, ce frère aîné démontre qu'il ne connaît pas son père, qu'il n'a pas de relation. Il est en train de lui dire, mais moi je t'ai servi, j'ai tout fait pour toi. J'ai obéi jusqu'au bout, jamais je n'ai désobéi. Il ne connaît pas son père. Vous savez, nous pouvons être dans des églises depuis 20, 30 ans et ne pas connaître Dieu dans une relation intime avec lui. Nous pouvons agir comme des esclaves alors que nous sommes des fils et des filles. Au lieu de se réjouir, il va enfoncer son père. Pourtant, son père lui dit que tout était à sa disposition, qu'il était au bénéfice de cette grâce. Laissez-moi vous dire que dans bien des aspects, nous agissons comme cet homme. Tulane Chivijan dira que le légalisme se manifeste lorsque nous mettons l'accent sur ce que nous devons faire plutôt que ce que Jésus a fait pour nous. L'ennemi privilégié de l'évangile, c'est le légalisme. Nous volons la place et l'œuvre de Jésus en la remplaçant par nous-mêmes et nos bonnes choses accomplies, ou du moins ce qu'on essaye d'accomplir de bien. Et je veux déclarer ce matin que si nous laissons l'évangile aux commandes dans nos cœurs, cela va produire un bon fruit. Luc Dumont nous a rappelé la semaine dernière, de mettre Dieu au centre de nos vies pour être au bénéfice de cet avenir glorieux que Dieu a pour chacun d'entre nous. Troisième point ce matin et dernier point, s'appuyer sur Jésus seul va produire de bonnes œuvres. Colossiens 1:23, « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Éphésiens 2:10 nous dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Luther dira « La foi en Christ, en effet, ne nous affranchit pas des œuvres, mais de l'opinion que l'on en a, la sotte présomption de chercher la justification par leurs moyens. » Dieu produit les œuvres dans nos vies. Lorsque nous vivons au quotidien dans la reconnaissance, dans la dépendance à Jésus, dans la dépendance de sa grâce, cela produit de bons résultats dans nos vies. Nous sommes invités, comme Paul nous le dit, à rester inébranlables et fondés sur cet évangile de la grâce. Et c'est dans ce cas que nous vivons le bénéfice de cette vie et que nous paraîtrons devant lui sans reproche. C'est le message que nous devons communiquer, annoncer et proclamer. Paul dira « Je ne me glorifie rien d'autre que de Christ crucifié. » Dans cette église, nous prêcherons l'évangile jusqu'à ce que Jésus revienne. On n'est pas là pour prêcher le légalisme ou prêcher « il faut faire ci » ou « il faut faire ça ». Mais on va prêcher l'évangile transformateur parce que Jésus fait la différence encore dans les vies en 2017. Amen. Jésus est celui qui transforme nos vies. Jésus se compare dans l'évangile à un cep de vigne dans lequel les sarments, nous-mêmes, devons tirer notre sève pour porter du fruit. On ne peut pas porter du fruit autrement qu'en puisant nos forces dans notre relation avec Dieu, en puisant dans la grâce de Jésus qui se renouvelle pour nous chaque matin. Amen. Vivre avec Jésus, vivre pour lui, cela produit la vie autour de nous. Dernière citation ce matin, au cœur du problème humain se trouve le problème du cœur humain. C'est pour cela que les règles, le bon comportement ou le succès n'offrent aucune solution. Nous ne pouvons pas transformer le cœur humain en modifiant le comportement. Une purification extérieure ne peut pas produire de purification intérieure. Seule une purification intérieure peut produire une purification extérieure. Et il n'y a qu'un seul être capable d'accomplir cela en nous, c'est Jésus seul. Amen. Alors vous allez me dire, Raymond Pierre, il commence à être saoulant de nous parler de la grâce tous les dimanches. Et je vais reprendre juste une parole pour finir de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, qui est une clé pour notre vie chrétienne. Et je pense que des gens se plaignaient de Paul. Maintenant donc, je me crois pas pour l'apôtre Paul, hein, mais c'est, je reprends le propos. Hein. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. Et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Et là, Paul, il n'y va pas de main morte quand il parle des religieux. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, les vrais croyants, c'est nous qui rendons un culte, notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. La seule fierté que nous avons, frères et sœurs, ce matin, c'est en Jésus-Christ, en ce que Jésus-Christ a accompli, en sa grâce qui se renouvelle chaque matin. Cette grâce qui se manifeste au sein de nos faiblesses. Amen. Ce matin, je vais vous lancer au défi. Alors que l'équipe va s'approcher, on va reprendre Jésus mon rocher comme une déclaration ce matin ici à l'épi. Mais je vais vous lancer au défi de laisser le légalisme de côté. De cesser de croire que parce que vous faites des choses pour Dieu, Dieu vous doit quelque chose. Je vais le dire ce matin et je le dis avec respect, Dieu ne vous doit rien du tout. Mais ce qu'il vous donne, il vous le donne par sa grâce et sa miséricorde, parce qu'il vous aime comme on l'a entendu dans le don spirituel ce matin. Dieu ne cesse pas et veut nous communiquer grâce sur grâce. Mais il ne veut pas que nous fixions nos regards sur notre petit nombril en disant « qu'est-ce que je suis un champion ce matin ?» Les vrais circoncis, les seuls circoncis, c'est ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux saluts dans l'histoire de l'humanité. Les gens seront sauvés parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus et en Jésus seul. Malheureusement, les autres sont destinés à la perdition pour l'éternité. Le seul espoir que nous avons ce matin, c'est Jésus-Christ. C'est le seul en qui nous voulons placer notre confiance. Amen. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être qu'il y a peut-être ces côtés un peu moralisateurs, légalistes qui peuvent être là. Que ce matin, en se levant, en se disant ben, « Seigneur, ça, je veux le déposer. Je te demande pardon, Seigneur, si j'ai été orgueilleux, légaliste, à regarder à moi-même et à ce que je pensais que je devais mériter de ta part. Mais je veux déposer ça entre tes mains et je veux te faire confiance. Peu importe ce qui peut traverser, je veux m'appuyer sur ta grâce et je veux proclamer avec foi ce matin que Jésus-Christ est mon rocher. » Amen.